Je vais commencer par une citation. C'est là qu'on commence à voir dans le noir qui ne craint plus aucune aube, dans le noir qui est aube et midi et soir et nuit d'un ciel vide, d'une terre fixe, dans le noir qui éclaire l'esprit. Avance ainsi, comme tremblant dans une évidence d'épiphanie, Samuel Beckett devant ce geste de négativité absolue que réclame tout vivant pour venir s'éprouver dans le dire majuscule de toute œuvre. Dessiller sa parole et s'ouvrir sans répit à l'écriture consisterait ainsi à endurer une violente traversée du monde depuis son envers, à rebours de toute lumière, afin de saisir, dans un récit neuf, encore inconnu et réversible, non la pleine lumière du présent, mais le paradoxal et irradiant faisceau d'obscurité qui ne cesse de se dérober à tout homme, à toute femme, et qui pourtant incessamment le fonde. Nul doute que ces quelques mots de Beckett, qui enseignent combien l'existence procède dans sa lucidité extrême d'une leçon de ténèbres et de mort, pourraient venir escorter le noir et terrible Philippe de Camille Laurence, lapidaire récit sur le décès après à peine 2 heures de vie du fils de la romancière, où à chaque page se fait entendre le cri sourd et mat d'une écriture entrée par ce non-vécu de l'enfant dans les infatigables désirs et puissances de connaître, dans ce qui innervera alors l'œuvre de Camille Laurence, à savoir l'espoir mathésique du vivant. De fait, œuvre d'obscurité qui tend vers la lumière de vie et qui d'emblée, dès sa dédicace, se range sous l'égide revendiquée des leçons de ténèbres de Couperin, Philippe installe en son cœur le plus dérobé, et comme pour le reste de l'œuvre à venir depuis lui, une patiente didactique de la ténèbre, par où cette mort de l'enfant, ce jour de février 1994, s'affirme comme le creux sombre, comme la tache aveugle, comme la chambre désertée, pourtant toujours et à jamais contemporaine de l'écriture de Laurence, le moment inouï où, depuis la mort, elle se donne la chance contredite du redébut, de la négativité comme geste liminaire de création, ou comme le dit Laurence elle-même sans détour, je cite, « Il fait tout noir au fond des abîmes, mais je ne veux pas fermer les yeux. J'écris pour voir, car la leçon de ténèbres, c'est la lumière. » Fin de citation. Partant, en 4 parties comme une odyssée herméneutique du malheur, vidée du mot de malheur lui-même, ou comme autant de verbes infirmes de tout sujet, le récit égrène 4 temps secs, souffrir, comprendre, vivre, et enfin écrire, comme autant d'étapes de ce qu'il conviendrait de nommer un récit non d'apprentissage, mais de son envers noir, de ce qu'à l'enseigne de Pascal Quignard, auquel Philippe doit beaucoup pour ce non-vécu de l'amour et de la vie, il faudrait peut-être nommer une manière noire de l'apprendre, à savoir un récit de ce qu'il faudrait nommer la défaisance. Car depuis ce cercueil qui œuvre comme une chambre noire de l'écrire, où se dit sans détour, je cite, « la boîte noire du cercueil où ne sera jamais développé le cliché de sa vie », fin de citation, Philippe ouvre au cœur de l'œuvre de Camille Laurence la chance herméneutique de l'œuvre même, sa puissance critique et fictionnelle de redevenir, parce que, depuis la fin, depuis la mort, depuis, je cite, « cette pensée qui me déchire la poitrine, le bébé est dans le noir », fin de citation, tout semble recommencer de nouveau. Ainsi, après, sinon pendant la tétralogie liminaire, celle-ci qui se constitue, dont on a déjà longuement parlé hier notamment, Index, Romance, Les travaux d'Hercule et dans une moindre mesure déjà l'avenir, Philippe s'affirme comme la leçon de ténèbres de l'œuvre, comme son flagrant envers négatif, comme son intense et irrémédiable défaisance par laquelle l'œuvre s'abandonne à elle-même, entre dans le point aveugle de son effondrement, voit par la vie ôtée de cet enfant, ce presque enfant, ce non-enfant, mais ce toujours enfant, se muer en un point continu et inouï de renversement, par où, avec violence et fureur, elle se désapprend devant l'événement d'une mort insurmontable. Parce que cette mort n'est pas un seul événement coupé de vie et isolé d'existence, elle innervera jusqu'au geste d'écrire, jusqu'à le défigurer, comme s'en rendra compte dans une stupeur hagarde et comme suspendue d'œuvre, l'héroïne de l'avenir. Donc je cite ce passage, « Il est mort, point final. » Elle avait essayé de réexpliquer. La signification de la proposition n'entrait pas en ligne de compte. La mort est peut-être la fin de tout, mais on n'a jamais fini de parler de la mort. « Il est mort, virgule, que vais-je devenir ?» Il est mort, virgule, que vais-je devenir ? Il est mort, virgule, quand est-ce qu'on va chez le notaire ? Il est mort, virgule, dans le Très-Haut, il a trouvé un abri, virgule, bon débarras, virgule, il n'avait qu'à m'écouter. Fin de citation. Avec Philippe, par le livre de cette mort rendue contemporaine de toute écriture à venir, du livre à venir lui-même, l'œuvre de Camille Laurence n'en finit désormais pas de ne pas finir cette mort, de l'infinir d'une certaine façon, à savoir, même quand elle sera dérobée à toute action, de faire rendre au présent de l'écriture son destin. Partant, à la notable et radicale différence de ses précédents romans, Philippe s'inscrit dans la défaisance continue et sans retour de ce qu'il faudrait nommer une littérature de l'indexation, d'une littérature indexée, pourrait-on dire, à savoir ces récits qui, à l'enseigne d'index, offrent de la parole une trame dédoublée, une trame œuvrant à la fictionnalisation du geste d'écrire, sans cesse dédoublée dans ce qu'il faudrait alors nommer une littérature de la littérature, ou bien plutôt par indexation, la littérature qui se montre du doigt et de l'index, une romance de la littérature. Se déploie dans la réverbération miroitante de la tétralogie une véritable science de la fiction par laquelle Camille Laurence donnait à lire jusqu'à Philippe l'expression la plus labyrinthique d'une romance du roman, en quelque sorte, au cœur de laquelle le roman devient la majuscule active et l'actant majeur de la narration, du roman qui vit une romance folle avec le roman lui-même, dans la mesure où par un jeu où la mise en abîme s'abîme, pourrait-on dire, elle-même, de mise en abîme continue, le roman devient un jeu de dédoublement, de déboîtement, d'emboîtement et de boîtement presque édipien, par où la littérature demeure le nerf de la romance. Mais Philippe fait fracture dans le roman. Philippe est un récit comme sorti de tout roman. C'est un récit brisé de roman, un récit qui manque l'indexation, qui ne sait pas, de son doigt fragile, montrer la littérature, comme si à la vérité, par la mort de l'enfant, une ligne hors de tout texte venait à être franchie, comme si Philippe œuvrait sciemment depuis une non-littérature, œuvrait depuis le lieu devenu nul, le non-lieu advenu de tout existant et de toute parole. En effet, cœur de ténèbres de l'œuvre même, Philippe procède comme un non-texte de Camille Laurence, dessine des phrases nues, sèches comme un emportement, à la mesure minimaliste, par où l'écriture entre dans sa non-écriture, dans la zone infranchissable où écrire rencontre son point nul dans le monde, la grande disparition de l'écriture de livre dans le livre, tant à partir de Philippe et depuis lui, l'œuvre s'écrit dans un grand après, l'après majuscule de la mort de Philippe, c'est-à-dire après la littérature, comme pour faire venir à soi une éthique neuve d'écrire. Comme le dira plus tard la narratrice de romances nerveuses, comme on dit d'ailleurs grossesse nerveuse, qui revient sur Philippe à l'occasion du différend qui avait opposé Camille Laurence, à Marie Dariussec, écrire après Philippe revient toujours à écrire depuis Philippe et dans Philippe. Je cite. Ce n'est pas pareil un thème et un sentiment. Parfois le sens n'advient que du vécu. Il y a des livres qui ne sont beaux que parce qu'ils ont été écrits depuis, écrits de. Nous voulons des romans d'amour, pas des romans sur l'amour. Des livres de deuil, pas des livres sur le deuil. Fin de citation. Écrire après Philippe, c'est écrire dans cette mort toujours déjà contemporaine. C'est écrire depuis la mort d'une littérature majuscule. C'est découvrir dans l'œuvre une autre ligne comme hors littérature. Celle que constate des années plus tard, encore, romance nerveuse. Une grande ligne de défaisance active où littéralement la littérature saute la ligne. Comme il est encore dit, je cite, la peur, le sentiment d'insécurité, d'impuissance et d'abandon que je venais d'éprouver étaient les mêmes qu'à la naissance de Philippe. C'était vrai. Le passage à l'acte, la pulsion, provoquait en moi la même terreur qu'autrefois. On basculait dans la mort, c'est-à-dire dans ce qu'on ne maîtrise plus, qui n'a plus de grammaire, plus de syntaxe, dans ce qui n'a pas de mots. On passait une ligne invisible au-delà de laquelle il n'y avait rien. Fin de citation. Depuis Philippe, comme une violente aposiopèse de l'œuvre, la parole de Camille Laurence s'éprouve dans cette épopée de littérature, dans ce saut de l'œuvre, où l'œuvre se désappartient de littérature, se désapprend de phrases, se déprend de l'écrire lui-même comme science. Comme si Philippe opérait, depuis sa mort, le saut métaleptique, la grande éblouissante métalepse de l'œuvre, hors littérature, là où palpite le vivant, là où le vivant ne cesse de vivre, d'emporter l'écriture loin d'elle, dans le geste fou et violent de sa désappartenance. À ce titre, dès son abrupte et irréversible entame, le récit qu'est Philippe s'ouvre à une littérature moins la littérature, à une écriture moins l'écriture, comme jetée hors d'elle, tant écrire n'appartient plus ni au roman ni au livre, mais doit s'inscrire dans un corps, doit littéralement, atomiquement, s'incorporer dans le monde, faire corps, faire monde, faire histoire. Dès lors, écrire n'appartient plus au livre dans le livre, mais à la mort dans la mort, au corps qui la guette et entre dans cette lampe défaisance d'une écriture qui vient se donner corps, être corps, où l'esthétique cède devant la conquête folle du vivant, c'est-à-dire appartient non plus à l'esthétique, mais ce qu'il faut nommer l'esthésique, par où le sens recule devant la conquête du sensible, insensible qui s'ouvre à l'horizon d'écrire. Il n'est qu'à se saisir ici de la lente mutation du corps en strates d'écriture, en écriture dérobée à l'écriture, pour faire de l'existence un livre nu, pour faire du corps la littérature de la littérature, mais cette fois devenue atome, corps, organe, à l'instar de ce corps par où la grossesse morte devient lecture d'un palimpseste, je cite ici Philippe. Sur mon corps, presque plus rien n'est lisible que la ligne gravidique dont la teinte brune s'efface lentement. Ventre palimpseste, où plus rien désormais ne pourra s'écrire à nouveau. Jouissance, grossesse, angoisse, que sur cette ligne. Fin de citation. Le corps devient le point limite, le cœur aveugle, la ligne d'ombre de la diction, le point de désécrire de la fiction même. Ainsi, depuis cette ligne gravidique, brune et bientôt illisible d'effacement, sur ce ventre impossible, cet enfantement bientôt sans enfant, l'œuvre dessine son redépart, redéploie une littérature du post-enfantement, une littérature qu'on pourrait appeler post-mortuaire, par où il s'agit tout d'abord pour Camille Laurence d'ôter le livre au livre, en montrant combien Philippe ôte à la littérature sa capacité d'indexation du monde, en montrant combien le langage devient une ligne révolue du sens et de la matière, toujours reculée à l'horizon d'une parole, comme si se donnait à lire ce qu'il faudrait nommer une somatographie, en lieu et place de strates métadiscursives et métafictionnelles, comme si se désécrire devait se saisir du langage pour paradoxalement montrer combien il se dessaisit de chacun. Avec insistance, et comme d'une fermeté frappée de stupeur, Camille Laurence dévoile ainsi combien devant l'événement de la perte de l'enfant, comme un hyper-événement qui rend l'écriture insuffisante et littéralement et fortement déplacée, les mots étaient usés du monde et des mots eux-mêmes. Affleurent alors nombre de remarques sur cette défaisance et bientôt défaite du langage lui-même à être et à faire monde, dans des propositions aussi lapidaires que solitaires, comme hors du langage, perdu de livre et désastré donc de parole. Par exemple, je cite dans Philippe, faire un livre, faire l'amour, effort vain d'abolir l'intervalle. Écrire, mettre des mots dans le trou, colmater. Les mots ne comblent rien, les mots manquent. Fin de citation. Ou un peu plus loin encore, à la lecture des rapports qui témoignent de la négligence médicale à l'égard de l'enfant, comme si le langage était hors poème avec le monde et littéralement ne rimait à rien, je cite, les scientifiques peut-être ont peur des mots qui ne le sont pas, ou bien est-ce seulement une manière de dire que toute mort, en un sens, est un avortement. Fin de citation. Le langage, de manière violente, a comme perdu sa voix, entre dans ce point de désaveu du son et du sens qui semblera pourtant impossible au personnage de l'avenir, pour qui le langage est toujours subordonné au sens grammatical, tant, je cite, il y a toujours des mots derrière les mots. Fin de citation. Mais ici, il n'y a que la mort qui pousse les mots, comme si le récit naissait à la place même du mort, comme s'il était la bouche d'ombre du devenir de l'œuvre. Si bien que par Philippe et dans Philippe, la phrase de Camille Laurence, qui n'écrit pas mais avec force déparle le langage lui-même pour ouvrir dans le monde une strate de défiction, comme on dirait défection, à la manière non pas uniquement d'une leçon de ténèbres, mais d'un conte négatif où le merveilleux de l'enfance cède devant et dans la mort au fantastique moins le fantastique, à sa sidération muette d'horreur, au langage mat qui immobilise Camille Laurence sur elle et fait d'elle, loin de toute fiction, la femme changée en bûche, comme il est précisé dans Philippe. Il se déploie donc ainsi un conte noir qui n'est pas à dire pour faire s'endormir l'enfant, mais qui se souvient de l'enfant mort. Ce conte négatif se donne ainsi comme une épopée sèche et nue, et comme désemparée, par laquelle l'écrivain entame, là encore, avec retenue et patience, une ultime déparlure, à savoir ici une défaisance générique et critique. Il s'agit cette fois, pour Camille Laurence, d'accomplir depuis ce point néantisé du dire, où le dire s'inaccomplit sans cesse, la vie se retire de la vie et la mort ne meurt plus en rien ni en personne, comme une triple catabase de l'identité, du langage et de la vie, par où l'enfant mort devient l'intercesseur inouï et retenté de la mère, qu'il guide vers l'exploration, la descente, l'enfoncement de l'œuvre en elle, qu'il plonge dans les enfers. Camille Laurence ne s'en cache pas d'ailleurs, qui, là encore dans Romance nerveuse, confie à sa parole ce pouvoir d'enfoncement, cette quête intense de la ligne d'ombre qui déparle le deuil pour le rendre de manière bartésienne et proustienne, non au deuil, mais à ce qu'il faudrait nommer le chagrin. Je cite, « Disant cela, je cherche à me dédouaner, oui, à passer moi-même une frontière, cette douane impitoyable où ce qu'on déclare n'est qu'une infime partie de ce qu'on porte, où l'on passe en contrebande ce qu'on a volé, et au-delà de laquelle il faut abandonner l'idée d'être sincère. Oui, je cherche à engendrer ce livre, à descendre les stations qui mènent en enfer, là où les corps sont des ombres. » Fin de citation. De fait, c'est depuis ces mots d'ombre, ces corps d'ombre, cette part de non-vie, de ténèbres, qui s'entête à vouloir vivre de pleine lumière, que l'écriture de Camille Laurence tente, par son compte négatif, d'entrer dans son redébut, à saisir ici comme la chance d'une vita nova, d'un pouvoir de revie qui annulera l'œuvre de l'œuvre, la phrase de la phrase, le livre dans le livre, qui décidément s'écrira après le livre. Car Philippe se situe à cet exact endroit et moment où le livre et le non-livre se replient comme sur eux-mêmes, à la pliure étroite de l'œuvre, où dans ces mots qui se perdent, se dévocalisent et s'égarent, et puisque le mot n'est plus à l'endroit non plus qu'à l'envers de ce qu'il dit, Camille Laurence doit faire tomber, comme malgré elle, comme avec elle, les parois du labyrinthe dressées avec méthode et virtuosité dans sa tétralogie première. Il s'agit en effet pour la romancière de venir dessiner et tracer un nouveau visage d'écriture, un visage au sens presque lévinassien, pardon, où l'autre prendra les traits d'elle, ne sera décidément pas celle que vous croyez, œuvrera depuis le mois mort du monde à l'enseigne de la réflexion paradigmatique de la narratrice dans le prologue de celle que vous croyez, qui dévoile, après la catabase à laquelle Philippe contraint, le nouveau mouvement de l'œuvre, si elle veut écrire dans la mort, à savoir qu'à l'exemple de Madonna, il faut, je cite, « continuer à exister ». Comme l'épigraphe mate et sourde, proleptique qui tient l'écriture dans son mouvement de redevenir et dans son intime geste prompt à redessiner depuis toutes les lignes gravidiques le labyrinthe, cette insistance de l'œuvre à continuer à exister dit ce moment où, comme chez Beckett, dans le noir, depuis la leçon de ténèbres, il s'agit avant tout de continuer, de poursuivre, de redébuter depuis la mort, tant la catabase, la plongée d'obscur dans le désastre et la mort ne peuvent être qu'une stase aphasique temporaire, une tache aveugle qui attend sa relumière, même spectrale, même diaphane. Et de fait, depuis Philippe, catabase de l'horreur, Laurence amorce, avec patience mais fureur, douceur mais force, la lente revenue du geste d'écrire au dire, à savoir cette fois une puissante anabase, une remontée ardente vers l'œuvre, vers le livre, qui sera toujours un petit peu moins lui-même, labyrinthe désormais ramené à son centre obscur. Car pour Laurence, comme pour Beckett, s'il s'agit de continuer, il s'agit depuis la mort, expérience ultime de désappartenance, de tracer un avenir, tant le chagrin exige de repartir en tentant de se mettre, je cite, « chaque jour devant le papier blanc comme penché sur le bébé mort », fin de citation, tant comme le disait déjà Barthes dans son journal de deuil, je cite, « dès qu'un être est mort, construction affolée de l'avenir, changement de meubles, etc. De point, avenir au manie », fin de citation. De la même manière, parce qu'il faut continuer, la parole de Camille Laurence se déploie de nouveau depuis la fureur pliée et dépliée, kaléidoscopique, comme autant de pulsions scopiques de soi, de cette même avenir au manie dont parlait Barthes. Il faut continuer, s'imaginer un avenir depuis la mort en creux, depuis la mort comme intime doublure, depuis la mort comme chambre secrète de toute fiction. Si bien que dans ce cri du continuer à exister, de Madonna par exemple, par où la parole cherche non la continuité, mais depuis la brisure, la continuation, la fiction se prend à trembler sur elle-même et à devenir, non plus à être, mais littéralement à devenir. Comme Foucault disait que la fiction devait se lire, je cite, « comme la nervure verbale de ce qui est, tel qu'il n'existe pas ». Fin de citation. Comme si Philippe ouvrait, hors littérature, dans ce trou d'écrire et de vivre, l'intervalle même nécessaire à l'autofiction, par où, ni vivante, ni morte, l'autofiction serait le cri de continuation, la parole nue de l'avenir au manie, là où il faudrait continuer, donc de s'inventer dans l'entre-deux des hommes. Comme si en vérité, l'écriture de Camille Laurence inventait entre roman et effriction une effraction, ni roman ni autobiographie, à l'instar du prénom Camille, ni roman ni autobiographie, à savoir une littérature épicène, comme on dit de Camille qu'il s'agit d'un prénom épicène. Et de fait, quand l'enfant ne vit que 2 heures en ce terrible jour de février 1994, Camille Laurence devient un double écrivain, ou un écrivain dédoublé, hanté du kaléidoscope de toutes les morts, des miroitements de soi, de l'altérité, comme s'il s'agissait désormais d'écrire, de dans ces bras-là, jusqu'à celle que vous croyez, en passant par romance nerveuse, donc d'écrire en fait ce qu'elle a nommé dans Philippe la phrase impossible, la phrase inouïe, comme elle le dit du jeu. On ne saurait plus, depuis Philippe, dire « il », car « il » est mort. Le « il » est de toute mort. Philippe est mort. Depuis nous, il ne reste que le « je », l'impossible parce qu'impensable, celui qui voulait s'oublier dans le « nous », le « toujours nous » de la famille à venir. Si bien que le « je » devient le vocable impossible et devient, par la mort, enfin dissible, devient ce cri dont le récit est l'articulation. Parce que pour Camille Laurence, depuis la mort, il faut saisir le monde depuis son effondrement, dans ce cri de mort qui mue tout écrivain en ce qu'elle nobe, depuis ce siège qu'elle évoquait hier soir dans sa lecture, le scribe du pourrissement du vivant, dans lequel elle voit tout homme et tout récit jeté. Par sa mort subite et inouïe, Philippe enfante, dans un geste accompli de réversion, l'œuvre, devient le père impossible de la phrase de sa mère, lui redonne l'étoffe du vivant et la dédouble entre la femme écrite et la femme d'écrire. Se dit ici, s'ouvre la phrase impossible depuis cette anabase qui veut continuer à vivre comme le père fictionnaliste Philippe grandissant pour de vrai, le faisant grandir. Je ne cite pas tout le passage dans lequel le père donc imagine faire des Legos, des parties de tennis avec Philippe. Depuis Philippe, la parole opère un dédoublement qui répond à un miroitement interne par où, depuis le « il impossible » est toujours mort et toujours spectral, l'écriture se découvre ce qu'il faudrait nommer un cogito hétéronymique, à savoir « je pense être moi-même, donc je suis une autre ». L'enfant non vécu revient au cœur de la phrase comme le grand fantôme d'un langage qui ne cesse de se perdre, de faire des mots son intime labyrinthe. Philippe est l'enfant qui ouvre le langage, celui qui dit l'enfance des adultes et de la fiction, tant Philippe donne à la phrase sa chance à écrire, tant par la douleur qui s'y donne de pleine violence, y surgit l'instant critique du langage, où figure l'intervalle à partir duquel se déplie un encore inexistant. Philippe n'est plus, mais il vibre dans l'œuvre comme un corps spectral. Celle que vous croyez n'est pas à l'endroit de ce qu'elle est, mais pourtant, elle est. L'épopée de romance nerveuse a bien lieu, mais sans exister. Elle est un intervalle du monde, elle est un intervalle du langage, par où Camille se dédouble en ruelle, mais en une ruelle spectrale, comme elle s'en explique. Alors je ne vais pas faire l'affront de lire ce passage, puisque Camille Laurence l'a beaucoup mieux lu que moi hier soir. C'est le passage où effectivement, ruelle est déjà morte. Donc voilà. L'œuvre de Laurence n'est pas miroitante, elle attend son reflet, elle le traque, elle veut atteindre le point ultime où, devenu miroir vide, chaque phrase coïncide sur elle-même pour ne plus exister, pour retrouver le reflet nu de Philippe, celui aperçu depuis Philippe. Cette fois, je cite. « Un autre jour, j'ai renversé mon visage en arrière face à une glace, et j'ai vu Philippe mort par-dessous mes paupières. Et seulement alors, j'ai su que j'étais sa mère, masque mortuaire aux yeux entrouverts. » Tous les miroirs reflètent mon fils mort, tous les miroirs reflètent mon fils et ma mort. » Fin de citation. Comme si, centre du labyrinthe, mais toujours centre dérobé, Philippe portait la puissance fabuleuse du Minotaure, avait fait mourir à soi sa mère, avait rompu tous les fils d'Ariane, comme s'il était le cœur noir de toute la parole de Camille Laurence, cet absent-là si présent, ce présent-là si absent. Et ce sera ma conclusion. À l'instar d'Ernesto chez Marguerite Duras, mais un Ernesto jeté dans l'inexistence, Philippe informe ainsi bien la parole de Laurence au point d'en redessiner son destin d'écriture, l'ouvrant à une autofiction qui pourtant ne répond pas d'une passion textuelle et du décollement fictionnel qui pourrait œuvrer à l'ego. Philippe redessine les lignes critiques du geste autofictionnel à partir de cet instant où donner la vie à la mère s'est interrompu et où s'est imposée dans l'écriture la nécessité de reprendre la mort. Car à la vérité nue de toute parole, Camille Laurence annule par Philippe le geste de l'autofiction, la détache du texte et la défait. Chez elle, l'autofiction n'est jamais une catégorie textuelle. L'autofiction est une catégorie de l'existence. Elle est une parole qui vient supplémenter le monde et le combler dans l'intervalle laissé par le langage à la mort. Car si d'index, jusqu'à encore et jamais, en passant par l'amour au roman ou encore ni toi ni moi, l'œuvre de Camille Laurence se fait kaléidoscope et labyrinthe, sans doute faut-il lire Philippe comme le rêve premier de la sortie du labyrinthe, mais aussi son entrée principale, ce moment atopique qui pourrait faire dire à Camille Laurence ces quelques mots paradoxaux, mais confiants d'Henri Michaud devant l'œuvre qui ne cesse de se continuer depuis toutes les morts dans son Anabas sans trêve. Je cite « Dans le labyrinthe, nous trouverons la voie droite ». Merci.